Le journal, Sarah Guibaudot. Bonjour Sarah.
Bonjour. Des coquelicots contre les pesticides. Les banderoles vont être déployées ce matin devant le tribunal administratif de Rennes. Le maire de la petite commune de Langouette vient défendre son arrêté écologique. Avec le G7, une grosse pagaille s'annonce ce week-end sur les routes de la côte basque. Les gares ferment demain entre Bayonne et Hendaye. Et l'aéroport de Biarritz n'accueille plus les touristes dès ce soir. Au contre-sommet près d'Hendaye, des responsables politiques de la gauche ont reçu hier un accueil mitigé, vous l'entendrez. La refondation de la gauche, on en parle avec votre invité à 8h20, Pierre.
Raphaël Glucksmann, député européen, tête de la liste socialiste Place Publique lors du scrutin de mai dernier. Quelle refondation pour la gauche? Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Raphaël Glucksmann vous répondra vers 8h35 et il sera dans ce studio vers 8h20.
Pas facile l'exercice diplomatique d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président reçoit Boris Johnson. Le chef du gouvernement britannique est plutôt habitué à se moquer des Français. En Italie, la crise politique fait craindre une hausse de plus de 3% de la TVA. Elle passera à 25% au 1er janvier si des mesures d'économie ne sont pas prises avant, et sans gouvernement, ce sera difficile. Dans ce journal, reportage avec une famille de Poitiers qui s'organise pour une rentrée zéro déchet. Ça permet de faire des économies sur les fournitures scolaires. Et puis une découverte musicale au Festival de musique sacrée de la Chaise-Dieu. France Inter. Le maire de Langouette en Ille-et-Vilaine a reçu de nombreux messages de soutien depuis que l'audience a été annoncée. Son arrêté contre les pesticides attaqué par la préfecture. Daniel Cueff doit s'expliquer ce matin devant le tribunal administratif de Rennes. Sa commune de 600 habitants est depuis 20 ans un laboratoire écologique. Mais le maire a peut-être outrepassé ses droits, Sandy Dauphin.
L'arrêté du 18 mai interdit l'épandage de produits phyto à moins de 150 mètres des maisons, mais la préfecture estime qu'un tel arrêté ne relève pas de la compétence d'une commune. Le maire de Langouette dénonce de son côté les carences de l'État en la matière. Daniel Cueff.
Si je veux faire un arrêté pour les crottes de chiens, ça, il n'y a pas de souci. Si je veux faire un arrêté pour la circulation, il n'y a pas de souci. Mais quand je veux protéger mes citoyens, alors on me dit, ah, c'est pas vous, c'est au ministre de l'Agriculture. Mais comme le ministre de l'Agriculture ne fait rien, ben nous, on fait leur place.
La Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine y voit un arrêté qui stigmatise la profession agricole et, pour son président Loïc Guin, créer un couloir sans pesticides entre les maisons et les champs va réduire la surface cultivable.
Il n'a pas à prendre un arrêté comme ça, de but en blanc, sans en discuter avec la profession. On a d'autres solutions à proposer pour ne pas perdre de surface. Pourquoi pas planter des haies entre le riverain et le champ? Mais on ne peut pas prendre des arrêtés comme ça. L'État nous demande d'écrire une charte des riverains. Tous les maires ont reçu un courrier de la part des chambres d'agriculture pour qu'on discute, on se met autour de la table.
La ministre de l'Environnement, Elisabeth Borne, promet des propositions très prochainement. Le gouvernement prépare un arrêté pour encadrer l'usage des pesticides en France. Le précédent a été partiellement retoqué par le Conseil d'État fin juin parce que justement, il ne protégeait pas assez les riverains et l'environnement.
Sandy Dauphin. À Créteil, une femme est morte et plusieurs personnes ont été blessées la nuit dernière dans un incendie spectaculaire. Le feu a ravagé un immeuble de 10 étages situé dans le périmètre de l'hôpital Henri Mondor et où logent des employés. À Biarritz, on voit de plus en plus d'uniformes dans les rues, des forces de l'ordre bien visibles sur terre, en mer et dans les airs. L'aéroport de Biarritz, où arriveront samedi certaines délégations du G7, ferme ce soir jusqu'à mardi matin. Certains vacanciers courent après les derniers vols. Le reportage de Mathilde Dehimi.
Gare aux retardataires.
Dernier vol ce soir à destination de Paris, un vol Air France à 21h20.
Une fois son dernier avion parti, Didier Richer, directeur général, fermera les portes de l'aéroport, mais pas le tarmac. Une partie des délégations sera accueillie dès samedi.
Il y a tout un protocole qui est mis en place et par les services de l'État, avec des conditions de sécurité à l'arrivée qui sont tout à fait inhabituelles pour nous.
Le personnel a été réduit pour ces 4 jours de fermeture en plein retour de vacances.
Nous avons évalué à 25 000 voyageurs la perte de trafic sur ces 4 jours. Nous sommes deuxième ou troisième week-end le plus fort de l'année. Et effectivement, ce n'est pas dans notre résultat.
Plus de 8 000 passagers en moins, rien que pour Air France, qui a reporté ses clients sur les aéroports alentours. EasyJet atterrira exceptionnellement à Pau. À Biarritz, Natalia de Saint-Sébastien a dû décaler son voyage.
On voulait partir pour le 25 ou le 26, mais il n'y avait pas de billets, enfin, pas de vol. Quand on a voulu réserver, on ne savait pas du tout qu'il y avait le G7. Du coup, on part maintenant tant qu'on peut le faire.
toute la zone sera bouclée. Isabelle espérait garer sa voiture au parking longue durée.
Voiture sur le parking, la voiture par la fourrière. Donc, c'est mon mari qui est parti déposer le véhicule chez un ami qui habite à Biarritz, plus loin, hors zone rouge et autres. Et ça a été juste la seule petite contrainte. Et puis voilà.
Les loueurs ont eux aussi dû évacuer leur voiture jusqu'à mardi, jour de réouverture de l'aéroport. Biarritz, Mathilde Dehémy, France Inter.
Les gares SNCF de Bayonne à Hendaye seront fermées demain soir. Il sera très difficile de circuler ce week-end sur la côte basque, y compris sur la 63. Avec des milliers d'altermondialistes réunis près d'Hendaye pour un contre-sommet du G7, la tentation était grande pour les responsables politiques de gauche d'aller tâter le terrain. Ils étaient d'ailleurs invités par l'association Attac. David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Éric Coquerel, député de la France Insoumise, et Olivier Besançon, le porte-parole du NPA, mais ils n'étaient pas les bienvenus pour tout le monde. Le reportage de Marwaman.
Pour de nombreux altermondialistes, ces personnalités politiques n'ont pas leur place dans ce contre-sommet. C'est l'avis de Pierre Nicolas, un jeune écologiste.
Quand je viens ici, je viens pas voir les politiques, clairement. Moi, je pense qu'ils ont rien à faire ici.
Si certains militants ont boudé la conférence, la salle était bien remplie. Parmi les griefs formulés lors de l'échange avec le public, un système des partis trop pyramidal qui ne s'appuie pas suffisamment sur les citoyens. À la sortie, David Cormand, d'Europe Écologie Les Verts, reconnaît que c'est la règle du jeu.
C'est normal de se faire secouer. On n'est pas là pour que les gens ils nous caressent dans le sens du poil. Donc ils disent les choses franchement, nous on répond franchement. Bah, c'est le débat. Et la démocratie, c'est le débat.
Les militants ont également reproché aux partis politiques de faire cavalier seul, de ne pas faciliter la convergence des luttes, une critique qui vise tout particulièrement la France insoumise. Éric Coquerel encaisse et donne rendez-vous au mois de septembre.
Regardez le mois de septembre, quoi. Il y a des dates de mobilisation quasiment tous les jours. Et là, je renvoie aussi la balle aux associations, aux syndicats. C'est pas possible de continuer lutte par lutte à souvent se faire battre. Donc la convergence, le fait de se fédérer, ça concerne pas seulement les politiques, ça concerne le mouvement social dans son ensemble. C'est ça qu'il faut qu'on construise.
Quant à Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, il s'est défendu en déclarant qu'il n'était plus candidat à rien, sinon à la révolution.
Omar Waman, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise ont choisi Toulouse pour tenir à partir d'aujourd'hui leurs universités d'été respectives. Les écologistes en position de force depuis leur score de 13% aux européennes doivent réfléchir à leur stratégie pour les municipales de l'an prochain. Quelles alliances et sur quelles lignes? Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est excusé de ne pas pouvoir venir au rendez-vous de la France Insoumise. Il est en voyage en Amérique latine et dit qu'il a rendez-vous le 5 septembre pour aller visiter en prison l'ancien président brésilien Lula. Emmanuel Macron estime qu'il faut probablement repenser certaines méthodes d'intervention des forces de l'ordre. Lors d'une rencontre avec la presse hier soir, le président a qualifié d'inacceptables les blessures reçues par les manifestants et les policiers lors du mouvement des Gilets jaunes. Par ailleurs, Emmanuel Macron a coupé court aux rumeurs de remaniement. Aujourd'hui, le président poursuit sa séquence diplomatique. Il reçoit le chef du gouvernement indien Narendra Modi. On en parle après ce journal avec Anthony Bélanger dans Géopolitique. Emmanuel Macron a aussi rendez-vous avec l'imprévisible Boris Johnson, campé sur la date du 31 octobre pour la sortie de l'Union européenne et qui demande toujours un nouvel accord. Si hier en Allemagne, Angela Merkel a jugé que c'était possible, le président français, lui, juge les demandes britanniques inacceptables. La rencontre pourrait faire des étincelles, d'autant que Boris Johnson n'est pas vraiment francophile, Élise Delève.
Les Français se comportent comme des cons sur le Brexit. Dernière provocation de Boris Johnson. Il est à l'époque ministre des Affaires étrangères et une équipe de la BBC le suit pour tourner un documentaire. Cette scène n'a jamais été diffusée car le futur Premier ministre aurait demandé à la chaîne britannique de couper la séquence au montage. L'affaire fait polémique en juin, mais il n'assume pas. Je n'ai aucun souvenir de ce commentaire, affirme Bojo en souriant. S'il ne se rappelle pas de cette insulte, il aura du mal à nier celle-ci. En 2017, en pleine négociation avec les Européens sur le Brexit, il compare François Hollande à un commandant de camp nazi.
Si Monsieur Hollande veut administrer une correction à quiconque essaye de s'échapper, un peu comme dans les films sur la Seconde Guerre mondiale, je pense que ce n'est pas la bonne voie pour aller de l'avant.
Quelques années plus tôt, il sourit en français lors de l'ouverture du tunnel sous la Manche.
Peut-être que les Anglais vont avoir beaucoup d'influence sur les Français à Calais. Peut-être qu'ils vont regagner Calais.
Devant Emmanuel Macron, Boris Johnson va-t-il déraper ou soigner son langage en parlant du Brexit? Il aura en face de lui un président français aux antipodes, tant sur le fond que sur la forme.
Élise Delève.
Il est 8h10, le journal Sarah Guibaudot. Sarah, en Italie, le président Mattarella poursuit ses consultations à la recherche d'une nouvelle majorité.
Le Parti démocrate de gauche a proposé une alliance qui semblait avant-hier encore improbable au mouvement anti-système 5 étoiles. Encouragée par des sondages favorables, la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini pousse de son côté pour des élections anticipées. Le problème, c'est que l'Italie doit boucler rapidement son projet pour 2020, sinon, et c'est ce que redoutent les Italiens, il y aura une hausse automatique de la TVA pour combler le déficit. À Rome, le reportage d'Antonino Gallofaro.
Une sénatrice est en train de s'exprimer face caméra après sa rencontre avec le président de la République. Mais dans ce bar, on entend seulement les paroles d'une émission satirique à la radio. Nicola a préféré couper le son de sa télévision, ce commerçant n'a que faire de la politique. Mais que la crise puisse provoquer l'augmentation de la TVA de 3 points l'inquiète beaucoup.
Le coût de la vie est très élevé. Les rentrées sont minimes. On n'y arrive pas. 3% d'augmentation pour un petit commerçant comme moi qui doit payer ses employés. S'il doit payer 20-30 euros en plus chaque jour, il le ressentira beaucoup en fin d'année.
Nicolas ne croit plus dans la politique. Mais les élus doivent résoudre cette question de la TVA à tout prix.
Ils sont obligés, sinon on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à aller de l'avant.
La crise politique est bien sûr le principal sujet de conversation, surtout dans ce bar, le lieu de passage de ce quartier populaire de Rome. Mauro, retraité, ne conçoit pas que cette situation puisse provoquer la hausse d'une taxe.
Au lieu de s'augmenter les salaires, qu'ils baissent la TVA pour nous donner à nous quelque chose pour vivre, aux commerçants aussi, sinon ils ferment, ils n'ouvriront plus.
La politique l'énerve tellement que Mauro ne veut plus donner sa voix à aucun parti. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Au Brésil, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro a déclenché une vague de protestations hier. Il a accusé les ONG de mettre le feu à la forêt amazonienne. L'Amazonie est ravagée cet été par des incendies records que les experts et les associations expliquent plutôt par la forte reprise de la déforestation. Le randonneur français retrouvé mort dans le sud de l'Italie est bien mort très peu de temps après avoir appelé les secours. L'autopsie confirme que Simon Gauthier n'a pas survécu longtemps à sa chute dans un ravin de Policastro, 45 minutes selon le procureur. L'étudiant avait les deux jambes brisées et une artère sectionnée. Encore 10 jours avant la rentrée des classes, certaines familles ont déjà fait les courses. Celle que vous allez entendre et qui habite à Poitiers commence par trier ses cartables. Une rentrée zéro déchet, c'est aussi moins cher. Le reportage d'Audrey Dumain.
On va vider la trousse.
Sur la table du salon, Nathalie a étalé tous les cahiers et les stylos achetés l'an passé pour sa fille Justine.
Deux crayons à papier.
J'en ai deux.
Une pochette de papier calque. J'en ai trois ou quatre. Alors ça en plus, j'en ai récupéré chez ma mère.
La première astuce pour relever ce défi zéro déchet, c'est d'abord de faire de la récup.
Souvent, il reste des stylos, il reste des tubes de colle. Et j'ai récupéré les feuilles des cahiers très peu utilisés. Donc ça peut servir de feuilles doubles ou de feuilles simples en faisant des trous pour mettre dans les classeurs. En plus, on re-regarde un petit peu ce qu'ils ont fait. Maman, j'ai fait ça, tu as vu, je m'en rappelle, avec les copains, on a bien rigolé.
L'autre solution, créer ses propres fournitures. Justine, qui entre en quatrième, aura des protège-cahiers sur mesure.
Ma mère, elle m'a fait des protège-cahiers qui sont en tissu imperméable. J'en ai un jaune avec des étoiles. Avec des pois blancs et noirs.
Donc ça évite d'avoir des protège-cahiers qui s'usent trop vite à racheter chaque année.
Et lorsqu'il manque quelques stylos, Nathalie préfère acheter en vrac, en papeterie plutôt qu'au supermarché.
Trop de plastique. On paye quelque chose qu'on va mettre dans la poubelle en arrivant à la maison. Le fait aussi d'aller chez le papetier, on va dire, ça évite de racheter une boîte complète pour avoir juste un feutre ou deux.
Une démarche qui prend du temps mais qui ne coûte pas forcément plus cher. Selon cette maman, cette année, elle ne dépensera qu'une trentaine d'euros pour les fournitures de sa fille.
Audrey Dumain de France Bleu Poitou. Si les produits bio sont plus chers, c'est aussi à cause des marges excessives de la grande distribution. C'est la conclusion d'une étude de l'UFC Que Choisir ce matin. L'association de consommateurs a constaté par exemple que pour les pommes, la grande distribution pouvait faire une marge de 80 centimes sur un kilo de pommes traditionnelles et 2,20 € de marge sur un kilo de pommes bio. Le festival de musique sacrée et symphonique de la Chaise Dieu sort ses classiques. En premier lieu, la symphonie fantastique pour les 150 ans de la mort de Berlioz. Et puis samedi, on sort des sentiers battus dans l'abbatiale Saint-Robert à la Chaise-Dieu avec l'oratorio Santa Teodosia de Scarlatti que les amateurs ont peu l'occasion d'entendre, Jacqueline Pétrose.
C'est une œuvre redécouverte il y a quelques années. Cet oratorio qui date de 1684 met en scène le martyr de Théodosie à Constantinople au 8e siècle. Magistralement interprété par l'ensemble des accents dirigés par Thibaut Noyer, la musique et les lyriques de Scarlatti dans les ruptures et l'exigence de l'art de la voix sont d'une grande modernité. dans le rôle-titre de Théodosia, la soprano Emmanuelle de Negri.
C'est une très très belle partition avec des moments très virtuoses. L'émotion va prendre là où on s'y attend pas finalement. Il y a des intervalles et des accords, l'harmonie est vraiment particulière et surprenante. En lisant la partition, en la déchiffrant, j'ai été assez étonnée en fait. Et puis c'est une musique qui prend au trip, non ? C'est émotionnel.
La bassiale de la chaise due à l'acoustique exceptionnelle amplifie la force de l'œuvre.
Dans ce genre de lieu, on est empreint du mysticisme du lieu aussi en fait. C'est une espèce de vaisseau en plus au milieu des montagnes. On est dans un vaisseau et on va faire un voyage.
Au programme du Festival de la Chaise Dieu, plus de 50 concerts encore cette année, dont beaucoup sont gratuits. On pourra entendre Bach, Beethoven, Vivaldi et pour les 150 ans de la mort de Berlioz, la Symphonie Fantastique.
Jacqueline Pétrose, le festival c'est jusqu'au 1er septembre à la Chaise Dieu et 5 autres communes de la Loire et de Haute-Loire.
C'était le journal de Sarah Guibaudot, la météo avec Marie-Pierre Planchon. Marie-Pierre, retour de l'été. Il était parti?
Et anticyclone oblige. Donc aujourd'hui, on sera 2 à 6 degrés au-dessus des normales de saison avec de grandes amplitudes entre ce matin et l'après-midi. Difficile de trouver la tenue idéale. Par exemple, à Montluçon, le soleil s'élève avec 5 degrés. Cet après-midi, vous aurez 29. Alors avec cet anticyclone qui s'étire de la Pologne jusqu'au proche Atlantique en passant par la France, la météo reste donc ensoleillée avec des températures donc qui continuent leur hausse par rapport à hier. En revanche, attention sur les Alpes, le ciel va s'ennuager au fil des heures et avec cette évolution diurne, des orages éclateront entre les Alpes et la Corse mais aussi jusqu'en région PACA, jusqu'à Marseille avec parfois de la grêle.
La chaleur va persister.
Et oui, aujourd'hui donc on sera 1 à 3 degrés au-dessus des normales sur la moitié nord, 2 à 6 au-dessus sur la moitié sud. Sur les côtes de la Manche on attend 22 à Fort-Mahon et sur la baie du Mont-Saint-Michel 24 à Belfort, comptez 27 à Paris et à Strasbourg. Vous aurez 29 dans la région nantaise, 30 à La Rochelle comme Ajaccio. On passera les 30 à Bordeaux, 32 à Marseille, 34, ce sera le maximum à Nîmes. Et ce week-end, ce sera le retour des fortes chaleurs avec des pointes à 33 à Paris et 38 dans le sud-ouest.
La météo, c'était Marie-Pierre Planchon.